Audiolib présente. Skidamarink de Guillaume Musso. Lu par Rémi Bichet. Préface à la nouvelle édition. Ce roman, le tout premier que j'ai publié, est paru il y a bientôt 20 ans, le 9 mai 2001. Baptisé d'un titre énigmatique, Skidamarink, une comptine anglo-saxonne, vous comprendrez à la lecture, il a bénéficié d'un accueil sympathique de la part des lecteurs et des libraires et s'est vu salué par quelques articles de presse encourageants. L'intrigue met en scène quatre personnages recevant chacun un morceau de la Joconde, assorti d'un mystérieux rendez-vous dans une chapelle italienne. Aujourd'hui, cette trame sonne comme une variation du Da Vinci Code, mais c'était 4 ans avant la parution du livre de Dan Brown, et le traitement en était différent. Davantage centré sur l'intimité, les secrets et les fêlures des personnages que sur un complot planétaire. Au fil des années, le livre est devenu introuvable en librairie. Et les exemplaires en circulation ont atteint des prix stratosphériques sur les sites d'enchères en ligne, au point que je déconseillais à ceux d'entre vous qui m'en parlaient de les acquérir. Mais au gré des échanges avec le public, à travers ces lettres ou nos rencontres en librairie, beaucoup de monde continuait de me parler de Skidamarink et manifestait son envie de découvrir le roman. D'autres encore en avaient lu des extraits en numérique, grâce aux versions pirates de mauvaise qualité qui circulaient sur Internet, et regrettaient de ne pas avoir la version papier. En cet automne 2020, j'ai pensé que l'heure était venue de redonner une place à Skidamarink, dont le souvenir a été un peu éclipsé par l'écho de « Et après », qui lui a succédé. Une façon de remercier ceux d'entre vous qui l'attendaient d'avoir été patients, et de remettre ce livre dans le contexte de ce parcours singulier que j'ai entrepris avec passion et fièvre, l'écriture étant pour moi le contraire d'une occupation frivole. Depuis longtemps déjà, j'avais envisagé tantôt de le réécrire, tantôt d'en donner une autre version. Mais chaque année, emporté par de nouvelles histoires à écrire, les nouveaux projets étant toujours plus en accord avec notre vie actuelle, je remettais ce désir à plus tard. Jusqu'à ce qu'un jour je me rende à l'évidence. J'aimais ce roman tel qu'il était, dans son jus, avec les qualités de ses défauts et les défauts de ses qualités. C'est donc cette version d'origine, à peine toilettée, que je vous propose dans les pages qui viennent. Je l'ai écrite entre 1998 et 2000, entre Antibes, Montpellier, Dublin et l'Est de la France. Je venais de terminer mes études et je débutais dans la carrière de professeur de lycée. J'ai commencé à taper le manuscrit qui s'appelait encore le puzzle sur le vieux PC de la maison familiale et l'ai poursuivi sur le Mac portable payé avec mes premiers salaires. Au printemps 1999, j'en ai réécrit les 100 premières pages presque de tête sur de grands cahiers à carreaux CIS parce qu'on avait cambriolé mon appartement et volé mon ordinateur et les disquettes qui traînaient à côté. À l'époque, j'écrivais le soir, après la préparation des cours et la correction des copies, jusque très tard dans la nuit, en buvant des litres de café et écoutant des CD de Keith Jarrett et de Philip Glass. Avant que je ne l'envoie aux éditeurs, le roman a été relu et corrigé par ma mère, et cette expérience, partager adulte un projet avec ses parents, fut un moment inattendu, joyeux et original. Peut-être plus encore qu'aujourd'hui, l'écriture était une part non négociable de ma vie. Comme mon héros écrivain dans La fille de Brooklyn, je me racontais des histoires dans ma tête depuis l'âge de